Il est 8h30. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Que les gros salaires lèvent le doigt, la transparence à la une, discutée à l'Assemblée cette semaine pour que chacun connaisse l'étiage des revenus dans l'entreprise. Les Français sont pour. L'empreinte de Charles Aznavour, elle est évidente au lendemain de sa mort pour les Arméniens que nous entendrons, pour la jeune génération des chanteurs et à l'autre bout du monde, nous serons à Los Angeles. La vraie fausse démission de Gérard Collomb révélée cette nuit, vraiment déposée mais pas accepté par Emmanuel Macron. Et puis la vraie démission d'un ancien Premier ministre sur le départ pour l'Espagne. Il sera dans ce studio avec vous tout à l'heure, Nicolas.
Manuel Valls à 8h20. Vos questions 01 45 24 7000. L'application France Inter et les réseaux sociaux.
À la une également le plan immigration des Britanniques après le Brexit. Les Européens considérés comme des étrangers lambda. Une fausse victime du 13 novembre au tribunal. Et puis une plongée dans les rues de Manille en guerre contre la drogue et ses milliers de morts sur ordonnance du président Duterte.
France Inter.
Et toi, combien tu gagnes? Pas le genre de question qu'on pose à la machine à café. Pourtant, on aimerait bien le savoir. Savoir dans quelle fourchette on se situe dans l'entreprise. Et ce sera le débat de la semaine à l'Assemblée dans le cadre de la loi Pacte avec un amendement qui propose la transparence, pas le salaire du voisin de bureau, mais les salaires médians dans l'entreprise. 70% des Français y sont favorables, selon un sondage de l'ONG Oxfam que France Inter vous révèle ce matin. Alors que certaines entreprises vont déjà très loin en matière de transparence. Bienvenue dans une société pionnière dans laquelle s'est rendue Claire Chaudière.
Service par service, tout le monde s'apprête ici à passer à la transparence.
C'est-à-dire que chacun sait exactement combien gagne tout le monde, depuis la stagiaire qui vient arriver la semaine dernière jusqu'au directeur technique.
Nous voici chez Open Classrooms, qui conçoit des cours en ligne, 130 salariés. Thomas Meister est l'un des porte-parole.
Il y a eu du frottement, ouais, c'est pas évident. Il y a quelque chose de très français, de l'argent, c'est quand même compliqué, etc. Les choses sont en train de changer. Le fait qu'il y ait eu un certain nombre de choses sur qu'il n'y a pas de tabou, ça permet de fédérer les gens. Oui, il y a une bascule.
Romain Kusniak a géré la fameuse bascule pour son équipe.
Il a fallu un peu de temps pour le faire. Pour que ça marche, la transparence des salaires, il faut déjà que les gens puissent un moment comprendre pourquoi les gens ont tel salaire. Il faut savoir s'évaluer, évaluer les autres, et ça engendre plein de mécaniques.
Pas de fléchage, par exemple, des augmentations vers ceux qui les demandent le plus fort. Christophe a même été agréablement surpris.
J'étais dans les salaires les plus bas. Des personnes de mon équipe ont demandé à ce que je sois rehaussé.
Mais au-delà de leur équipe, les salariés connaissent-ils la moyenne des plus hautes rémunérations de l'entreprise?
Moi, je sais pas.
Non.
C'est la prochaine étape, assure la DRH. On verra alors qu'un facteur 6 sépare ici les plus bas des plus hauts salaires, écart tout à fait justifiable, précise-t-elle, ce qui ne serait peut-être pas le cas dans certains grands groupes qui ont laissé filer depuis des années les rémunérations les plus élevées.
Les Français, la transparence salariale, sondage et détails sur franceinter.fr. Non, il ne partira pas, pas maintenant en tout cas. Emmanuel Macron veut encore garder Gérard Collomb, il l'a fait savoir cette nuit. Le ministre de l'Intérieur, futur candidat à la mairie de Lyon, a présenté sa démission, mais le président l'a refusé. Bonjour Maxence Lambrecht.
Bonjour.
Communiquer comme ça sur une démission qui n'a pas lieu, c'est pour le moins curieux.
Oui, même Nicolas Hulot n'avait pas osé, pourtant lui aussi avait présenté sa démission en vain. Si hier soir, Gérard Collomb s'est empressé de prévenir nos confrères du Figaro de cet épisode, c'est qu'il y voyait un intérêt, une manière de revenir dans le match, prouver à ses collègues ministres, aux forces de l'ordre, qu'il avait toujours la confiance du président, alors que leur relation demeure assez glaciale. Emmanuel Macron n'avait pas du tout apprécié son annonce il y a 15 jours d'une démission après les européennes. Et hier, il n'a pas voulu céder à la pression. Comme souvent, tu partiras quand je le déciderai, résume un de ses proches. Pas question d'opérer un deuxième remaniement en moins d'un mois même. C'eût été catastrophique en termes d'image, reconnaît un fidèle de la Macronie.
Et il se dit, Maxence, que l'ambiance, somme toute, est plombée autour de Gérard Collomb.
Il ne s'imaginait pas une telle fin de règne. Place Beauvau, le compte à rebours est déjà lancé. Son administration prend peu à peu ses distances, tout comme les syndicats de policiers et de gendarmes. Lui n'a plus de projet de loi à porter. Des députés de la majorité spéculent déjà sur le nom de son successeur. On parle de Frédéric Pechnard ou Gérald Darmanin. Bref, cette démission n'est sans doute pas qu'un coup de com', mais aussi le fruit d'un vrai ras-le-bol. Comment va-t-il faire maintenant pour tenir 8 mois à son poste sous les huées de l'opposition? Emmanuel Macron lui a officiellement demandé hier soir de rester pleinement mobilisé sur sa mission pour la sécurité des Français.
Maxence Lambrecht du service politique de France Inter. Une opération antiterroriste à Grande-Synthe dans le Nord ce matin. 12 perquisition au siège d'une association en raison de son soutien marqué à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements prônant des idéaux contraires aux valeurs de la République. C'est la préfecture du Nord qui informe.
Il est 8h05, Florence. Les Arméniens du monde entier lui sont reconnaissants.
Lui, le plus connu d'entre eux, n'est Shanur Varinag Aznavourian, arménien par ses parents. Charles Aznavour, mort hier à 94 ans, a été un passeur de la mémoire arménienne. Il a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, ce que ces deux femmes, rencontrées par Mathilde Dehimi, n'oublieront jamais.
Ça m'a apporté de la dignité. À l'époque, on connaissait pas les Arméniens. Et la seule référence qu'on avait, c'est « je suis d'origine arménienne, comme Charles Aznavour ». Ensuite, ça m'a apporté de la fierté. Parce que c'est une personne qui a véhiculé le français. Il a quand même été l'ambassadeur de la France. Lui, d'origine arménienne, il est extraordinaire.
Je crois qu'une de ses grandes forces aussi, c'est qu'il a su mettre des mots là où nous n'avions plus de mots. Où nous n'avions jamais eu de mots. Le génocide, c'est un moment de silence. Ensuite, il y a eu des décennies de négation par l'État turc. Lui, en 1973, quand il sort, ils sont tombés. Je revois mon père arriver avec le petit 45 tours chez nous et nous dire « écoutez ça ». Et je me revois le mettre sur mon tourne-disque et j'écoutais et j'étais, je ne sais pas comment vous dire, c'est tellement important à un moment donné de pouvoir mettre des mots sur la souffrance. C'est comme si on existait. C'était la première fois où on avait l'impression d'exister.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants.
Ils sont tombés, magnifique chanson sur le génocide arménien. Charles Aznavour et les hommages par milliers depuis hier, on y revient tout à l'heure à la fin du journal.
Il est 8h07, Florence, un accord sur les vieux diesels en Allemagne cette nuit.
Des millions de voitures concernées, ce sont les constructeurs qui vont payer pour remettre les véhicules à niveau alors que plusieurs tribunaux allemands menacent d'interdire les diesels les plus nocifs dans des dizaines de centres-villes. C'est l'industrie automobile qui a généré ce problème, c'est à elle de payer, a expliqué la ministre de l'Environnement. L'industrie allemande qui a inventé la technologie diesel. On connaîtra les détails de cet accord dans la journée. Les Européens, des étrangers comme les autres, en Grande-Bretagne, annoncent de Theresa May. La libre circulation sera bien supprimée après le Brexit. Et le seul critère sera celui des compétences des travailleurs, ce qui permettra de limiter l'immigration des personnes peu qualifiées. Antoine Gignot.
Pour plus d'un tiers des militants, il est l'homme providentiel, capable de sortir le pays de l'ornière, capable de relancer les négociations avec Bruxelles, explique Rachel Tingle, économiste et membre du Parti conservateur.
Boris Johnson a dit qu'on pouvait peut-être utiliser la période de transition de 2 ans avec l'Union européenne pour...
Voilà, là il s'agit de Boris Johnson qui s'exprimera aujourd'hui devant le congrès du Parti conservateur à Birmingham, avant Theresa May qui parlera, elle, demain. Et qui s'est donc exprimé cette nuit en expliquant comment allait se passer la suite, comment l'immigration serait gérée après le Brexit avec des Européens considérés comme n'importe quel autre étranger.
À l'origine, c'est Sajid Javid, le ministre de l'Intérieur, qui était censé aborder le sujet pendant son discours aujourd'hui devant le Congrès conservateur. Mais il y a eu des fuites. Le nouveau plan d'encadrement de l'immigration, déjà évoqué par le gouvernement mi-septembre, a été mis en ligne sur le site du Sun hier soir. En voyant les titres des tabloïds, l'équipe de Theresa May a rédigé à la hâte un communiqué de presse pour tenter de reprendre la main, car cette idée d'immigration choisie n'est pas nouvelle. Le Parti conservateur plaide depuis le référendum d'hommes sur le Brexit pour une sélection des travailleurs étrangers en fonction de leurs compétences. Les propositions ont été dévoilées mi-septembre, mais le sujet est désormais crucial pour la Première Ministre. Theresa May, contestée par les militants qui l'accusent d'être trop conciliante avec Bruxelles, doit à tout prix reprendre la main si elle veut rester à Downing Street. Elle joue sa survie face à Boris Johnson. L'ancien ministre des Affaires étrangères ne cache pas son envie de gouverner. Il va prononcer un grand discours en début d'après-midi et s'appuie sur l'électorat conservateur proche de l'extrême droite. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Le Québec, à l'heure des nationalistes, bientôt dirigé par le fondateur de la compagnie Air Transat, un millionnaire qui veut réduire l'immigration et qui n'est pas indépendantiste. Après 15 ans de gouvernement libéral de la couleur politique du Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Et nous voilà maintenant au royaume de l'arbitraire, aux Philippines, où la guerre contre la drogue a fait des milliers de morts.
Et c'est un choix de France Inter ce matin, sous l'impulsion de l'imprévisibilité prévisible, le président Robert Duterte qui a encouragé ses concitoyens à faire eux-mêmes justice et à tuer les trafiquants et les consommateurs. La guerre contre la drogue aux Philippines, il l'a confessé comme un péché, Robert Duterte, la semaine dernière, alors que la Cour pénale internationale a lancé une enquête préliminaire sur ces crimes de masse qui continuent. Reportage rare dans les rues de Manille, signé Eric Biegala.
On les appelle les Night Rollers ou patrouilleurs de nuit. Un groupe de photographes de presse qui, depuis le début du règne de Duterte, il y a 2 ans et demi, documente les meurtres qui s'enchaînent. Rafi est l'un des plus anciens.
Ils travaillaient pour un grand quotidien et ils ont bien vu que le sujet était important. On savait que beaucoup de monde allait être tué. Ils l'avaient promis.
Il est 2h30 du matin lorsque la radio prévient les photographes d'un nouveau meurtre.
Il y a 2 morts. C'est assez loin d'ici et la police scientifique est déjà sur les lieux. Quand la police scientifique n'est pas encore présente, on a encore une chance d'attraper quelque chose. Mais là,
quand ils parviennent sur place suffisamment vite, les photographes arrivent à documenter ces meurtres aussi précisément que des légistes. Vincent montre les clichés qu'il a pris ces derniers jours.
Vous voyez celui-là ?
Il a 2 impacts de balle à l'arrière de la tête.
Oui, ils l'ont achevé.
Vous ne publiez jamais ce genre d'image ?
Non. Mais un jour ou l'autre, ça servira à identifier les responsables, comme celui-là, regardez.
C'est un officier de police ?
Oui, un chef d'équipe, responsable pour toutes ces opérations de soi-disant riposte.
Depuis le printemps 2016, 23 000 Philippins ont été tués par balle dans les rues de Manille, et la police d'État revendique près de 5 000 trafiquants abattus. Pour le moment, la guerre à la drogue de Duterte a fait plus de victimes que la guerre au Yémen. Manille, Eric Biegala, France Inter.
Et en Indonésie, 2 nouveaux séismes ont eu lieu cette nuit dans une autre partie de l'archipel au large de l'île de Sumba, d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter à 1600 km de l'île des Célèbes, où le bilan s'alourdit. 34 étudiants en théologie ont été retrouvés ensevelis par une coulée de boue dans une église. Les autorités estiment que près de 200 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire.
8h12, jusqu'où peut-on pousser l'usurpation ?
Question alors qu'une femme de 32 ans comparaît aujourd'hui devant le tribunal à Paris pour s'être fait passer pour une victime des attentats du 13 novembre. Elle s'appelle Alexandra. Elle disait avoir reçu une balle à la terrasse du Carillon ce soir de novembre. Les incohérences de son récit ont fini par déclencher une enquête. Mais entre-temps, Alexandra a reçu 20 000 euros d'indemnisation. Elle a même plusieurs fois témoigné de son traumatisme dans la presse, Jean-Philippe Degnaud.
Elle a le regard franc, Alexandra, sur cette photo de l'agence France Presse qui illustre un reportage sur la thérapie par le tatouage. Elle montre crânement son bras avec le blason et la devise de Paris. Là où, raconte-t-elle, elle a reçu une balle qui lui a causé une cicatrice de 6 cm. Nous sommes 1 an après le 13 novembre 2015. Alexandra est très investie dans le milieu associatif des victimes des attentats. Elle adhère à Life for Paris et elle suit un stage avec l'association des victimes du terrorisme. Son directeur général, Guillaume de Saint-Marc.
Elle a passé en fait une semaine avec d'autres victimes, enfin avec des victimes du terrorisme, où elle a passé énormément d'ateliers de thérapeutiques, prises de parole, ateliers d'art créatif, etc.
Et personne n'a rien vu, en fait.
En tout cas, on n'a pas vu d'incohérence. Je dirais que nous avons aussi des incohérences, quelquefois, avec des vraies victimes. Hein. Ça fait partie aussi du traumatisme. Et ce qui est dommage, c'est que ça pourrait nous amener à être suspicieux auprès de vraies victimes. Donc, c'est important que la sanction soit intense pour dissuader d'autres de faire pareil.
Alexandra comparaît aujourd'hui pour une escroquerie qui peut lui coûter jusqu'à 5 ans de prison.
Et nous revenons, comme promis, à Charles Aznavour et à l'empreinte qu'il a laissée, vous allez le voir, dans le monde entier, en commençant à notre porte, à l'Olympia, où se produisaient plusieurs jeunes artistes. Hier soir, Nolwenn Leroy, soprano Vianney, pour un concert de charité. Aznavour, ça leur parle, évidemment. Ils ont même parfois chanté avec lui, avec cet homme qui ne vieillissait pas. Souvenir au micro de Sandrine et toi, Andegue.
Mourir
tandis que le monde.
Nolwenn Leroy fait plusieurs duos avec Charles Aznavour. Elle se souvient.
On se sent terriblement chanceux d'avoir pu apprendre à ses côtés, d'avoir pu recevoir des conseils de sa part. Et à mes débuts, lorsqu'on me prédisait que quelques mois de carrière, il m'avait invité lors de ses 80 ans au Palais des Congrès en me disant « Mais n'écoute pas, trace ton chemin, écris tes chansons, fais ta musique. » Voilà.
Souvent en vain.
Le rappeur et chanteur marseillais Soprano lui voue aussi un immense respect.
Au début, le rap, les gens ne comprenaient pas trop. Et c'est le premier que j'ai entendu à la télé dire « Ouais, mais les rappeurs, c'est les premiers à utiliser les mots de la langue française. C'est un des premiers qui nous a donné beaucoup de respect à la culture urbaine. En fait, c'était comme un rappeur, lui.
Et Charles Aznavour est un exemple pour Dylan, 14 ans.
On avait fait un show et je l'avais croisé et j'avais dit à ma mère oh, « Regarde, c'est Charles Aznavour, il est là, il est là !» Et on n'osait pas lui demander une photo, donc on avait trop peur parce que c'est un grand monsieur de la chanson française. Et quand nous, on démarre comme ça avec notre groupe, on se dit « Waouh, on aimerait bien avoir une carrière aussi longue. » Et c'est impressionnant de voir son parcours.
Son groupe, les Kids United, reprend sur scène avec « Délice, emmenez-moi », une chanson éternelle. Voilà des gamins qui reprennent Aznavour. Il a décidément traversé les générations comme il a traversé la planète de Tokyo à New York et plus à l'ouest, à Los Angeles, où il avait son étoile sur Sunset Boulevard. Pierrick Laurent a mesuré la ferveur qui règne sur place là-bas pour France Inter.
Il est l'un des rares Français à avoir ici une étoile. C'est donc naturellement sur Hollywood Boulevard que des fans sont venus déposer des fleurs, des membres de la communauté arménienne et des Français en vacances comme Agathe.
Il est décédé ce matin dans le village où habite ma maman à Mouriès, en Provence. Donc j'ai tout de suite vu l'étoile et j'ai envoyé une photo à ma maman pour qu'on puisse se recueillir ensemble. Je savais même pas qu'il était reconnu mondialement et c'est vrai qu'en voyant toutes ces fleurs et tout ce monde autour, j'étais assez surprise c'est vrai que c'est assez touchant, ça fait plaisir.
L'étoile de Charles Aznavour est au pied du Pantages Theater où il s'est produit en 2016. Le chanteur avait reçu son étoile l'année suivante des mains de Laron Goebbeler, le président de la Chambre de Commerce.
Il est rare qu'on remette une étoile à une personne de plus de 90 ans. Mais du coup, c'est un moment unique. Quelqu'un qui est à la fin de sa carrière apprécie bien plus ce genre de récompense. Quand nous lui avons remis son étoile, dans sa biographie, nous l'avons surnommé le Frank Sinatra français. Et je pense que c'est sans doute la comparaison la plus appropriée, car Frank Sinatra reste ici une icône de la chanson. Fairy
tales can come true. Frank Sinatra et Charles Aznavour d'ailleurs réunis sur ce duo baptisé Young at Heart. À Los Angeles, Pierrick Laurent pour France Inter. For it's hard you will find to be
narrow of mind. If you're young. Ça croune.
Aznavour, premier crooner français.
Merci Florence Paracuelos.